Alors, j'ai Marie-Roselaine avec moi et j'aimerais lui demander qu'est-ce que c'est de suivre Jésus pour vous dans votre vie de tous les jours?
Suivre Jésus, c'est... Je ne sais pas les mots que je dis parce que c'est toute ma vie, c'est de ça que je respire. Il me fait tellement du bien pour ma vie et pour ma famille et pour mes futurs aussi. Je vis à fond la vie que Jésus est pour moi.
Ça représente le bonheur.
Le bonheur?
Le bonheur. Quand je suis Jésus dans mon cœur, je vais bien.
Alors, la question pour vous, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que c'est suivre Jésus pour vous personnellement?
C'est réfléchir, qu'est-ce que Jésus voudrait que je fasse? C'est être une lumière pour lui. C'est dans les petites choses, par un sourire, par un bonjour, par une prière, de ma cœur, de prier. Je vais le faire tout de suite. Suivre Jésus, c'est pas quelque chose de compliqué. C'est simplement de chercher à avoir son cœur pour les autres.
Je vois sa main. Dans des situations, je vais rencontrer quelqu'un. Un tantôt, j'ai rencontré quelqu'un à l'hôpital pendant que ma femme passait un examen. Puis le monsieur, je me suis assis à côté de lui, puis j'avais un livre du pasteur Claude, justement. puis là, j'augmente ma foi. Puis là, le monsieur, j'ai commencé à lui témoigner avec mon livre à l'hôpital, « Augmente ma foi ». J'ai dit, vous avez besoin de ça aujourd'hui, vous, hein, parce que c'était IRM. Donc, les gens ont probablement le cancer ou quelque chose de sérieux. Fait qu'il m'a dit oui. Là, je lui ai témoigné. Quand je suis parti, il m'a serré dans ses bras. Fait que pour moi, c'est des occasions comme ça où ce que je peux servir le Seigneur.
Alors, je suis avec une nouvelle famille, de nouvelles vies. Racontez-moi pour vous, qu'est-ce que c'est suivre Jésus?
Ben, suivre Jésus, je dirais que c'est lié à notre projet. Le message tombe bien ce matin parce que ça fait depuis 2011 qu'on suit Nouvelle Vie par Internet en France et on a concrétisé notre projet à venir vers la bénédiction, venir et suivre Jésus, avoir de nouveaux objectifs, de nouveaux projets avec lui, avec ma famille, mes enfants, mon épouse. Et on est vraiment heureux d'être là aujourd'hui, de pouvoir suivre Jésus de manière concrète par la démonstration que nos projets se réalisent jour après jour.
Juste que ce matin, le message nous a vraiment encouragés à croire que les meilleures choses étaient à venir et que donc il faut, même si on ne voit pas ce qui va arriver, il faut vraiment croire que le meilleur est devant nous avec Jésus.
Et vous les filles, qu'est-ce que vous faites pour suivre Jésus, pour le connaître?
On croit en lui, on lit la Bible et on prie pour lui.
Oh, super. Tu veux rajouter quelque chose? Non, la même chose?
Merci beaucoup.
Ben moi, j'ai été diagnostiquée avec un cancer cette année. Et c'est sûr que le premier réflexe, c'est de s'inquiéter. Mais quand on remet tout au Seigneur, c'est qu'on n'est plus inquiète parce qu'on sait que c'est Dieu qui dirige toutes choses. Et j'ai appris des trésors dans la parole là, qui est venu me inonder mon cœur, qui est venu me donner la confiance, le calme, la paix. Et je trouve ça extraordinaire. Et c'est drôle à dire, mais je suis bénie. Je suis vraiment bénie parce que Dieu a sa main sur ma vie, sur ma santé. Et exactement, je ne peux pas demander mieux.
Pour moi, suivre Jésus, c'est prendre le temps de passer du temps avec lui, venir à l'église, vraiment essayer de s'investir, puis t'sais, s'enrichir avec les messages de chaque pasteur, puis rendu à la maison, de prendre un temps de au moins prier, puis de demander comme qu'est-ce que tu as besoin, demander des requêtes à Dieu, puis juste vraiment t'investir, puis t'assurer qu'il soit vraiment dans ta vie au jour à jour. Bien, en fait, surtout que je suis jeune en ce moment-là, je suis beaucoup influencée par mes amis, par le monde extérieur là, de la vie chrétienne. Fait que j'ai de la misère à des fois rester droite, mais comme j'essaie vraiment de venir puis d'essayer de vraiment, comme j'ai dit tantôt, de m'investir pour que quand je reviens à ma vie du jour à jour à l'école, que bien, je me rappelle que bien, il y a ça et que bien, je ne sais pas comment trop l'expliquer, là, mais juste. Ouais, je veux faire une différence, puis j'ai vraiment de la misère, comme je me bats avec ça, mais je travaille là-dessus au jour à jour, puis j'essaie de prendre des bonnes décisions, puis d'arrêter des mauvaises habitudes que j'aurais tendance à faire pour vraiment suivre la bonne direction, puis montrer aux autres que c'est la bonne voie à prendre.
Nous vous souhaitons la bienvenue. À la suite de notre série de messages « Suivre Jésus », bienvenue à vous ici à Longueuil, bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur nos différentes, diverses plateformes en ligne, streaming live, en Facebook live, sur notre chaîne YouTube et aussi en multisite. Il y a des églises maintenant qui téléchargent les messages les dimanches matin. On va commencer à vous nommer dans les prochaines semaines et mois les différentes locations de différentes nouvelles vies. Nous sommes des dizaines de milliers de tous les âges à vouloir suivre le Seigneur, redécouvrir, nous emparer de ce que ça veut vraiment dire de suivre Jésus en 2019. Et nous sommes ce matin, nous continuons la deuxième partie d'un message dans l'évangile de Jean, pardon, chapitre 8, alors que nous avons cette rencontre entre ce qui a été appelé la femme, la pécheresse pardonnée. Mais moi, j'appelle ça, c'est pas seulement la pécheresse pardonnée, c'est la pécheresse pardonnée et c'est les pécheurs provoqués. Tous les pharisiens qui étaient là autour et on a traversé le message ensemble la dernière fois parce que ce texte nous apprend à marcher. Suivre Jésus, c'est le suivre sans condamnation et le suivre sans compromis. Sans condamnation et sans compromis. Alors que chacun s'apprêtait à lui lancer la pierre et Jésus qui les confronte chacun d'entre eux, que celui qui est sans faute lui lance sans péché, jette le premier la pierre. Et s'étant donné à nouveau baissé, il a écrit sur la terre. Et lorsqu'ils ont entendu ça, ils ont jeté leur pierre chacun à leur tour et ont quitté. Et on prend le texte dans Jean chapitre 8. Et au verset 10, « Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Car il leur parle encore à nouveau, il dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Je ne te condamne pas, ça c'est marcher, suivre Jésus sans condamnation, mais va et ne pêche plus. Et ceux qui vont me suivre vont marcher, non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière, marcher sans compromis, sans condamnation, sans compromis. On a étudié ensemble la semaine dernière, vous avez manqué le message, il faut que vous allez chercher, il est déjà en ligne, qu'il n'y a maintenant aucune condamnation. Romains 8, il n'y a absolument aucune condamnation. Il n'y a absolument aucune condamnation. Il n'y a rien ni personne qui peut me condamner et rien ni personne ne peut m'accuser, ne peut me séparer de l'amour qui est en Jésus-Christ. Pas de condamnation pour moi, quel que soit mon passé, quel que soit mon hier, quelles que soient mes fautes, mes erreurs, mes échecs. Il n'y a aucune condamnation que ceux qui le reçoivent et le croient ce matin crient Amen dans ce lieu. Il n'y a pas de condamnation. C'est la doctrine de la justification, expliquée par Paul. On l'a expliqué en détail la semaine dernière, mais celui qui n'a pas connu, 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous sur la croix, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Le processus de justification, je ne te condamne pas, nous sommes justifiés. Toutes mes fautes, passées, présentes et futures qui sont mises sur Christ. C'est important, la doctrine de la justification, appelée aussi la doctrine de l'imputation, que toutes mes fautes ont été imputées à Christ, mais toute sa justice m'a été imputée à la croix. Toute la justice, la pureté, la perfection de Christ devient nôtre. Non pas par quoi que ce soit que moi j'aurais fait, mais à cause de ce que lui a fait à la croix. Toute culpabilité, toute condamnation passée, présente et future devant Dieu est effacée et nous devenons justes, nous devenons acceptés par la foi devant Dieu. Nous ne sommes pas acceptés par ce que nous avons fait, mais par la foi dans ce que lui a fait. Toute la justice et la pureté de Christ nous est attribuée, nous est imputée et mise à notre compte devant Dieu. Tout le Nouveau Testament enseigne cela et mentionne même Abraham, le père de la foi, comme notre modèle en disant ces mots dans Romains, le quatrième chapitre, cette explication qui s'applique à nous aussi. Il parle d'Abraham, il dit c'est pour cela que ça lui a été imputé à justice, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, mais encore à cause de nous. À nous, cela est imputé, à nous qui croyons en celui qui est ressuscité des morts, en Jésus notre Seigneur. lequel a été livré pour nos offenses à la croix et ressuscité pour notre justification. Le père de la foi, Abraham, comme lui, toutes nos offenses ont été mises sur Christ. Et puis, toute la justice de Christ a été mise sur nous par la mort de Jésus et la résurrection. Livré pour nos offrances, c'est la croix. Ressuscité pour notre justification. Et le même esprit qui ressuscita Christ d'entre les morts demeure maintenant en nous et nous permet d'entrer dans cette vie de résurrection sans condamnation. La justification change notre statut devant Dieu et est porteuse d'une puissance pour des ramifications spirituelles, des transformations, des changements si nous laissons Dieu agir qui sont illimités. Nous ne sommes pas seulement cette non-condamnation, cette justification. Et non seulement nous ne sommes, non seulement est-ce que nous sommes pardonnés, que toutes nos fautes sont effacées. Le pardon nous laisserait sans tâche, mais sans statut ou sans accès. Comme quelqu'un qui fait une faillite personnelle. Ses dettes sont effacées, mais il n'a rien et il est handicapé pour l'avenir. Mais nous ne sommes pas seulement pardonnés où mes dettes sont effacées. Ne manquez pas ceci par la foi, c'est la richesse de votre héritage. Non seulement est-ce qu'il n'y a plus de condamnation, mais Dieu nous impute, Dieu nous attribue tous les mérites de Christ. Nous sommes acceptés en lui. Nous sommes approuvés en lui. Celui ou celle qui est approuvé n'a plus rien à prouver. Nous sommes acceptés en lui. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous sommes en lui, il est en nous. Nous sommes héritiers. Nous sommes les héritiers de cette alliance. C'est pour ça que dans Romains 4, il décrit Abraham comme le modèle. Et il dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ça soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, à tous ceux qui vont avoir cette foi. Non seulement à celle qui est sous la loi, non seulement à celle qui était sous Abraham, mais à celle maintenant qui est par la foi, ça c'est nous. La foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations, il est notre Père devant lequel il a cru. » Il a cru Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Lorsque nous marchons, si vous saisissez ça, si nous marchons sans condamnation, si nous marchons avec toute la grâce et le pardon de Dieu, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut guérir en nous et par nous. Il n'y a pas le chrétien qui marche sans condamnation dans la grâce et la justification de Dieu, sans honte ni culpabilité, marchant dans la puissance de la résurrection, est capable d'appeler à la vie ce qui était mort. Le pardon de Dieu donne la vie à là où un mariage était mort, là où la foi était mort, là où l'espoir était mort, et appelle même à l'existence ce qui n'existait pas encore. Son pardon est créatif, il régénère, il change et il crée des hommes et des femmes à son image. Vous devriez dire amen si vous êtes une nouvelle création. Littéralement, l'apôtre. Alors la question du début de message est, êtes-vous sérieux dans votre marche avec Dieu, de suivre Jésus? Êtes-vous prêt par la foi à le suivre dans l'appel de la non-condamnation? Refusez de vous condamner vous-même, refusez de condamner d'autres, de marcher dans son pardon pour vous-même que vous recevez et que vous relâchez. Parce que voici comment Dieu décrit ses justifiés, ses fils et ses filles. Voici comment, dans le même texte de Romains 4, voici comment il décrit ceux qui marchent dans ce pardon, dans cette justification, ceux qui marchent sans condamnation, espérant lorsqu'il ne semblait plus y avoir d'espoir. Il a cru sans faiblir dans la foi. Il n'a pas douté par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Moi, lorsque j'ai lu ce passage après toutes ces années à marcher avec Dieu, j'ai été saisi d'un désir, je prie que Dieu vous le communique ce matin. Le désir de dire, Seigneur, je veux que ça soit dit de moi. Je veux que ça soit ça mon témoignage. Je veux que ça soit ça que ma vie inspire à mes enfants et mes petits-enfants. Je veux que ça soit ça que ma vie inspire, que j'ai marché à chaque jour avec Dieu, sans condamnation pour moi-même ou pour d'autres, mais avec confiance, avec cette foi qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, avec cette foi qui appelle à la vie ce qui était mort, pleine, ne doutant pas par incrédulité, mais pleinement convaincu que ce que Dieu a promis, il est capable de l'accomplir. C'est comme ça qu'on veut marcher. comme ça qu'on veut marcher. Littéralement, le chrétien, suivre Jésus, c'est le suivre avec cette foi sans condamnation qui fait que, par la grâce et l'Esprit de Dieu, j'appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Il y a des choses qui n'existaient pas. La personne que Dieu veut que tu sois, tu ne peux même pas l'imaginer. Personne d'autre que Dieu ne la voit. Le mariage que Dieu veut que tu aies, personne d'autre que Dieu peut l'imaginer. Mais tu marches avec cette assurance, avec ce cœur qui dit, Seigneur, ce n'est pas seulement un sermon pasteur Claude, c'est ma vie. Je veux appeler par la foi à l'existence qui n'existe pas. Je veux appeler à la vie ce qui était mort. Je veux que tu me fortifies afin que dans mon âme, ne doutant pas par incrédulité, je sois fortifié dans ma foi, pleinement convaincu que ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Il y a quelques semaines, on avait un anniversaire de mon épouse et on était tout un groupe d'amis autour d'une table, on se parlait des premières fois, là, tu te souviens-tu, etc., etc. Et je pensais à cette notion de, tu sais, qui fait arriver des choses, qui amène à l'existence des choses qui c'est juste impensables hors de lui qui peuvent exister. Amène à juste, seulement ce que Dieu avait prévu et préparé. Et je leur partageais la première fois que j'ai rencontré le pasteur David Wilkerson lorsque j'avais 23 ans et j'ai été invité à être son traducteur partout à travers le Québec pendant 5 semaines dans tous les stades. Il y avait le Colisée de Québec et le Stade Arena du Québec, dont le Centre Paul Sauvé ce soir-là. C'est juste les gens de ce que Dieu est en train de créer. J'étais là debout à côté de lui à 23 ans à le traduire. Et ce soir-là, au Centre Pas Sauvé, il y avait des gens autour de la table qui disaient, moi, j'ai donné ma vie au Seigneur-là. Et ce soir-là, Luc Dumont, qui prêchait ici la semaine dernière, Luc Dumont a donné sa vie. Il était dans le fond de la salle. Moi, je suis sur l'estrade à 23 ans à traduire. Lui, dans le fond de la salle, c'est le premier message d'Évangile qu'il entend. Et Luc Dumont est converti ce soir-là. Et Dieu avait ses plans pour que nous servions, que nous travaillions ensemble. Et ça m'a fait sourire parce qu'il y a des choses que Dieu rend possibles, que Dieu amène à l'existence que les gens ont même peine à croire. Un des moments humoristiques de cette soirée-là, j'étais le traducteur à 23 ans, Centre Pas Sauvé, c'est mes anciens quartiers à Montréal. Et j'avais 23, j'ai donné ma vie à 17, ça faisait 6 ans que j'étais chrétien. Et il y a un gars qui est entré dans la salle, qui m'avait connu dans ma jeunesse, puis moi je me souviens ce que je lui ai fait subir, et il m'avait connu à 16-17, puis il est rentré dans la salle, puis lorsqu'il m'a vu, bien, il s'est rapproché, c'est-tu bien lui? Et il s'est mis à aller dire à tout le monde en arrière, il faut arrêter ça! C'est un imposteur. Je le connais, lui. J'ai grandi avec. Il n'a pas d'affaire là. Il ne mérite pas d'être là. Il faut l'enlever d'être là. Il faut avertir le frère Wilkerson. Ils ont dit, mais non, frère, mais non. Et il était tellement agité qu'à la fin de la réunion, ils me l'ont amené. Puis j'ai dit, mais non, moi aussi, j'ai accepté le Seigneur. Moi aussi, je suis devenu chrétien. Il était là. Amener à l'existence ce qui n'existait pas. Ce lien, il y a un petit gars de 23 ans qui traduit sur l'estrade. Je ne pouvais pas imaginer ce lien de cœur avec David Wilkerson. Je ne pouvais pas imaginer ce soutien pour toutes les années où j'irais prêcher là-bas, porter la parole là-bas, à faire le tour du monde avec lui. Pas, Dieu seulement peut imaginer ce que tu peux être, ce que tu peux devenir. Je me souviens lorsque, autour de l'année 2000, on entrait ici et le frère Wilkerson était à la recherche d'un successeur. Et mon épouse Chantal vous le témoignerait. On avait reçu un courriel où il me disait, est-ce que tu pourrais considérer venir à New York comme successeur de venir prêcher. Et là, j'étais comme, mais non, je suis appelé à la francophonie. Et je me souviens, j'avais regardé la lettre pendant un bout de temps, le courriel, puis j'avais répondu, vous savez, je suis appelé à la francophonie, je suis honoré d'aller là-bas pour vous servir, mais je suis appelé à être ici à Nouvelle Vie. Et il m'a répondu, oui, on va t'appuyer là-dedans. Et dans les derniers mois, je suis honoré, puis je vous le dis pour que vous puissiez prier pour moi. Ils m'ont demandé maintenant, et j'ai accepté de siéger sur le conseil d'administration de World Challenge mondial dans plus de 70 pays. Un instant, êtes-vous capables, les gars, de ramener l'autre photo auparavant, la photo de 1985? Est-ce que quelqu'un pouvait imaginer ce qui était pour exister, ce que Dieu pouvait faire? Pour vous montrer celle de moi et Luc, s'il vous plaît. Vous imaginez ce que Dieu pouvait faire avec le petit blond à ce temps-là, parce que Luc Dumont avait des cheveux blonds platine qui montaient gros comme ça. Pensez-vous que quelqu'un d'autre que Dieu aurait pu regarder à cette scène-là et dire, voici ce que je vais rendre possible. Lève la tête ce matin. Sans condamnation, Dieu appelle à la vie ce qui était mort et à l'existence qui n'existait pas. Voulez-vous dire amen? Alors, nous le suivons dans la justification, je ne te condamne pas, et dans la sanctification. Va et ne pêche plus. Deux fondements, deux valeurs, deux fondements indispensables, absolus, deux preuves et fruits qui sont inaltérables de ce que ça veut dire. Si quelqu'un suit Jésus, il va marcher dans la dynamique de « je ne te condamne pas » sans condamnation et dans « va et ne pêche plus » sans compromis. La justification est une position devant Dieu. La sanctification est un processus. La justification, c'est Dieu qui, ce que Dieu a déclaré, ce qu'il a décrété sur moi, un pardon, ma position devant lui. Mais la sanctification, c'est ce que Dieu va développer en Jésus, en nous. Une puissance, un progrès, une poursuite, une passion. La justification est permanente, la sanctification, elle est personnelle et elle est progressive. La justification est accomplie, mais la sanctification doit être acquise. Alors, la question de l'Esprit, est-ce que vous permettez, est-ce que tu permets à Dieu, est-ce que tu marches aujourd'hui en suivant Jésus dans cette dimension où il te dit encore, va et ne pêche plus. Ce n'est pas seulement pour la première fois que tu as donné ta vie au Seigneur, dans les premiers 3 ans de ta vie où tu as fait des grands changements. Dans chaque sphère, saison et décennie de nos marches avec Dieu, je dois marcher au diapason de « va et ne pêche plus ». Va, ce processus de changement, de transformation, de purification, de sanctification. La justification est accomplie, mais la sanctification doit être acquise. La justification est par la foi, mais la sanctification produit un fruit. La justification, c'est suivre sans condamnation. La sanctification, c'est suivre sans compromis. La justification est un don, c'est le salut. La sanctification, c'est une démarche spirituelle sincère. Regardez, suivre Jésus. Si vous suivez Jésus, vous avez cet extraordinaire équilibre. Matthieu 11, 19, le Fils de l'homme est venu, mangeant, buvant, et il dit, c'est un mangeur et un buveur, c'est un ami des publicains. Les publicains étaient les pires pécheurs. C'est un ami des publicains et des gens de mauvaise vie, ce qu'il lui reprochait, mais lui, il marchait sans condamnation pour qui que ce soit. Mais Hébreux 7, 26, il nous convenait d'avoir un souverain sacrificateur saint, innocent, sans tache et séparé des pécheurs. Il est un ami des pécheurs, mais il est séparé des pécheurs. Je suis ami des pécheurs, mais je suis séparé des pécheurs. Pas séparé physiquement, pas dans le monasticisme, mais je suis séparé dans mon mode de vie. Je veux répondre à ce monde, mais je ne veux pas lui ressembler. Je vais communiquer à ce monde, mais je ne veux pas lui être conforme. Je veux pouvoir donner à ce monde, mais je ne veux pas laisser ce monde me définir. Je suis un ami des pécheurs, mais je suis aussi séparé d'eux dans mes valeurs, dans mon mode de vie. Il y a un processus de salut et de sanctification. Il y a Jean 3, 16, il y a Jean 3, 17, mais il y a Jean, suive Jésus, c'est Jean 3, 18, 19, 20, 21. Jean 3, 16, il est tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Il nous rappelle que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il n'a pas placé l'Église sur la terre et à Longueuil et partout dans la francophonie pour que nous jugions ce monde, condamnions ce monde, mais pour que ce monde, une personne à la fois, soit aimée, soit pardonnée, soit acceptée, soit relevée et soit sanctifiée par le message de Jésus à travers nous. Quelqu'un devrait dire oui. Mais on ne peut pas arrêter dans Jean chapitre 3, versets 16 et 17, parce qu'il continue au verset 18. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Et ce jugement, c'est que la lumière, Jésus est venu dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Le message souvent oublié, négligé, ignoré et même méprisé dans les sables mouvants où s'enlisent les disciples légalistes de la fausse grâce sans sanctification. Ce message-là pourrit et défigure l'Évangile. Il n'y a pas au nom de la grâce, il n'y a pas au nom de la grâce une vie sans condamnation si elle n'est pas sans compromis. Sans ce cœur qui désire être purifié par Dieu. Car quiconque, qui continue dans Jean 3, c'est la suite de Jean 3, 16. C'est ça, suivre Jésus. Quiconque fait le mal est la lumière. Il va haïr, souvenez-vous de ce mot. Il va avoir une haine. Quiconque fait le mal est la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité, il vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Mais suivre Jésus, c'est un contraste, c'est une confrontation pour des changements de cœur, de conscience, de conduite. Sans compromis. C'est littéralement, regardez le contraste dans les textes qu'on vient de lire. Il y a d'un côté celui qui refuse la lumière, il préfère les ténèbres parce que ses œuvres sont mauvaises. Il est la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées parce qu'il ne veut pas changer. L'autre aime la lumière. Il vient à la lumière. Il veut que ses œuvres soient changées. Il veut que le suivre Jésus, que l'œuvre de sanctification fasse son œuvre en lui au point où les œuvres que Dieu fait, c'est Dieu qui les fait, deviennent un témoignage de la puissance de la résurrection dans sa vie. Alors la question 1, c'est lequel suis-je devant Dieu? Celui qui résiste, refuse, cache, me sauve de la lumière. Ou celui qui vient à la lumière, celui qui dit « Seigneur, viens manifester tes œuvres en moi ». La deuxième question, c'est « Suis-je prêt à agir selon la vérité afin d'avoir un cœur sans compromis ?» Sans condamnation, mais un cœur sans compromis. « Suis-je prêt à reconnaître que mon cœur s'incline souvent, incline mes actions vers ce qui est mal, vers ce qui me fait du mal et le fait à d'autres ?» Nous allons regarder ce matin à un texte, un passage. Trois habitudes, trois dynamiques pour incliner, pour redresser, pour un cœur qui va marcher sans compromis. Non seulement marcher dans le « je ne te condamne pas », mais marcher dans la dynamique du « va et ne pêche plus ». C'est particulier parce qu'on fait des recherches, on étudie tout ça, puis le texte que je vais utiliser ce matin est un texte qui, depuis des siècles, moi, je lis des commentaires bibliques, je lis des livres d'études, et je lis des messages, j'écoute, et j'étais surpris de voir, pas surpris, j'étais impressionné de voir ce texte-là. On va regarder ensemble au psaume 119, et les versets 112 et 114, le plus long psaume de la Bible, 112 et 114. Et ce texte-là et cette notion-là du cœur, j'ai entendu des messages de Stephen Furtick, de Craig Rushell, de Andy Stanley et de son père, Charles Stanley. Et j'ai trouvé cette esquisse de message, ce texte-là, dans un message de Charles Spurgeon en 1890, 2 ans avant sa mort, il a enseigné. Ce matin, je vais prendre ce texte-là. Et je vous appelle à une écoute non seulement physique, mais une écoute qui est spirituelle, une écoute qui est émotionnelle, une écoute de dire comment est-ce que ça pourrait devenir pour moi un mode de vie, comment puis-je avoir un cœur sans compromis, comment est-ce que je peux marcher avec un cœur tout entier pour lui et marcher dans cette dynamique-là d'appeler les choses mortes à la vie, d'appeler les choses qui n'existent pas comme si à l'existence. Et le psaume 119, 112, 114 nous donne trois clés, trois habitudes, trois démarches, trois poursuites afin d'avoir un cœur qui est sans compromis. Et le psalmiste dit ces mots. « J'incline mon cœur à pratiquer tes commandements, Seigneur, toujours jusqu'à la fin. Je hais les hommes de compromis et j'aime tes commandements. Tu es mon refuge et mon bouclier. Et c'est en tes promesses que je mettrai mon espoir. » Trois dynamiques, trois, si vous pratiquez ceci, vous allez avoir une vie avec un cœur sans compromis qui va produire des fruits et créer en vous, par vous, à travers vous, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Trois pensées, trois pratiques, trois habitudes. Mon refus radical, ce que je dois rejeter, mon refuge, où je dois me réfugier, et mon retour, ce que je dois renouveler, ce à quoi je dois revenir. Combien d'entre vous comprennent que les vrais changements commencent avec le cœur? Les vrais changements commencent avec le cœur. C'est le cœur, c'est pas ça. Ça peut pas être juste, ça peut pas être juste les intentions. C'est pour ça que la Bible dit de l'abondance du cœur. Protège ton cœur par-dessus toute chose, parce que de ton cœur, toutes les issues de la vie vont couler. Les vrais changements de comportement, d'attitude, les changements profonds commencent dans le cœur. C'est pour ça qu'il dit « J'incline mon cœur vers ». Le psalmiste écrit cela parce que son cœur est en déclinaison. Son cœur était décliné. On n'incline pas quelque chose qui est déjà dans la bonne direction, qui est déjà droit. Son cœur, comme le vôtre, comme le mien, a tendance à aller dans un... Alors, j'ai besoin de redresser, j'ai besoin de ramener, j'ai besoin d'incliner mon cœur vers. Est-ce que vous savez que vous êtes en charge de votre cœur? Vous êtes responsable de votre cœur spirituellement. Vous êtes responsable de savoir dans quelle direction est-ce que mon cœur s'incline. Il dit, j'incline mon cœur, mais pas seulement à entendre tes commandements, à les chanter ou à les connaître ou à les témoigner à des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais j'incline mon cœur, je te demande, incline mon cœur, Seigneur, à pratiquer tes commandements pour toujours et jusqu'à la fin. Pas pour un changement temporaire, pas pour une inscription au gym en janvier, puis je suis déjà dans les Doritos au mois de février. Est-ce que vous me suivez? Non, non, quelque chose de profond, quelque chose de réel, quelque chose, pas pour des promesses qui ne seront pas tenues, qui brisent le cœur de ceux qui mettent leur confiance en moi. Non, Dieu veut faire une œuvre en moi. Seigneur, je veux incliner mon cœur vers toi maintenant, à chaque jour et pour toujours et jusqu'à la fin. Je veux dire à des chrétiens plus âgés dans la foi, c'est merveilleux comment tu as commencé, mais ce qui compte, c'est comment tu es aujourd'hui. Et je veux marcher avec un cœur pour Dieu, sans compromis, jusqu'à la fin, quelqu'un devrait dire oui. Dites à voix haute avec moi jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Toujours jusqu'à la fin. Et ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois dans une saison de notre vie, c'est une œuvre continuelle. Il y a un an ou deux, j'allais pour mon examen médical annuel et mon médecin est un jeune médecin super en forme. À chaque fois que j'y vais, il me raconte tout ce qu'il fait. Il fait du vélo, il est en forme, il joue au hockey, etc. etc. Puis là, j'arrive là pour mon examen annuel, puis il commence à me raconter, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Je me pense en super forme et puis je n'ai pas, extérieurement, là, il a vraiment l'air en shape. Et puis je suis parti en vacances, puis depuis certaines semaines, je me sentais fatigué, mais je me suis dit, j'ai besoin de vacances. J'étais allé en vacances, puis j'allais faire mon gym en vacances, puis après 4-5 minutes, j'étais essoufflé, épuisé. Le lendemain, je reviens, après 3-4 minutes, j'étais étourdi. Alors, j'ai dit, je ne ferai pas d'exercice, je vais revenir. Et lorsqu'il est revenu, est allé passer un examen, ils l'ont rentré d'urgence à l'hôpital. Il y avait des artères complètement bloquées. Et ils l'ont opéré. Et il me dit, c'est moi, il me dit, écoute, il dit, extérieurement, j'avais l'air super bien, mais mon cœur était bloqué à l'intérieur. J'étais assis là, puis c'est sûr que je contestais à mon épouse, elle a dit, tu parlais de toi, tu as-tu parlé? Non, non, j'ai juste parlé de lui, j'ai juste parlé de sa santé à lui. Moi, ça n'a pas important, moi, je t'en chais. Alors, c'est ce que ma femme m'a dit, coudonc, c'est toi qui étais supposé être là. J'aimerais dire ceci, il est tellement sonde-moi, oh Dieu, et connaît mon cœur. Il est possible, comme chrétien, d'être ici. Extérieurement, tout est bien, je chante, je loue, ça a l'air correct, mais je porte des choses. Il y a des affaires qui se passent dans mon cœur. Seigneur, incline mon cœur vers tes commandements, pas seulement pour les entendre, les chanter, mais afin de les vivre, afin de les pratiquer avec un cœur sans compromis. Quelqu'un devrait dire oui. Dites à la personne près de vous, fais attention à ton cœur. Dites à la personne près de vous, fais attention à ton cœur. Le cœur sans compromis, trois pratiques. La première, c'est un refus radical. Et les mots sont surprenants, sont saisissants, mais suivez-moi. J'incline mon cœur à pratiquer tes commandements toujours, jusqu'à la fin. Je hais, c'est quoi ce mot-là dans la Bible? Je hais les hommes de compromis et j'aime tes commandements. Un refus radical, ce que je dois refuser, ce que je dois rejeter, ce que je vais apprendre à haïr. Et si vous dites, c'est pas ces mêmes mots-là, moi, que j'ai dans ma Bible. Si vous allez dans les textes originaux, il dit, je hais celui qui est double-minded, qui a des doubles pensées. C'est littéralement la définition de compromis. Dans le grec du Nouveau Testament, l'apôtre Jacques va utiliser la même pensée dans Jacques 1. Il va dire, voici un homme, il est irrésolu, il est dans le compromis, il est double-pensé, il est instable dans toutes ses voies. La définition, une des définitions dans le dictionnaire Petit Robert de compromis, c'est l'état et action par lequel on transige et transgresse notre conscience. Je fais des deals avec ma conscience, puis là, je la transgresse, je suis dans le compromis. Double-minded, je dis une chose, mais je fais l'autre. Je n'ai pas un cœur tout entier. Saisis bien ceci. Dans la Bible, jusqu'à aujourd'hui, et des millénaires d'histoire, Dieu a utilisé et utilise encore et se sert de personnes qui ont des passés horribles, qui ont des faiblesses, qui ont fait des erreurs, qui ont fait des gaffes horribles. Il les a restaurés de Moïse, le meurtrier, à David, à aller jusqu'à l'apôtre Paul ou l'apôtre Pierre qui a régné. Dieu est capable et va se servir de gens complètement imparfaits, mais il ne peut pas utiliser quelqu'un qui marche avec un demi-cœur dans le compromis. Double-minded man is unstable in all his ways. Celui qui est irrésolu va être instable. Parce que, et là, le psalmiste va dire quelque chose que si tu saisis, peut vraiment, c'est un principe dans toute la Bible, mais dit ici d'une manière très particulière, c'est que la haine, il y a une saine haine. C'est un mot fort. Il dit littéralement, je hais, ils ont mes compromis, et j'aime tes commandements. Et la haine est une saine haine, est une plus puissante force motivatrice pour le changement que l'amour au départ. Elle doit précéder et préparer l'amour et l'attachement à ses commandements. Je dirais de cette façon, je dois haïr certaines choses pour pouvoir en guérir. Les choses que je hais, et si vous traversez la Bible, les choses que Dieu hait. Alors, marcher sans compromis, c'est apprendre à avoir une saine haine, pas pour des gens, pas pour des personnes, mais pour les choses qui que Dieu est afin d'aimer ce que Dieu aime. Dieu a guéri et utilisé des hommes et des femmes imparfaits qui avaient des cœurs qui étaient tout entiers pour lui. La haine doit précéder l'amour pour que le changement prenne place profondément. Pensez un instant. Tant que quelqu'un qui consomme n'en arrive pas à réaliser et à haïr ce que le pot, ce que la coke lui fait, il n'entrera pas dans des changements et il va se mettre à aimer ce que la vie sans consommation amène. Si tu n'haïs pas assez, tu ne réalises pas, je vais être encore plus, je vais le partir à un niveau que vous allez comprendre. Très simple. Il y a plusieurs années, on était allé avec une photo qui va apparaître avec une gang de leaders de l'Église Nouvelle Vie ensemble. On est allé faire une journée de team bonding ensemble. On est allé faire du rafting. C'est moi qui est en avant. C'est génial. Prochaine photo, c'est juste cool. On est ensemble, on est tout ensemble, on fait du rafting. Ça, c'est moi dans l'avant, quand même. Et le gars, son plaisir, c'est qu'à un moment donné, on renverse et tout ça. Puis c'est juste une journée extraordinaire. Et là, cette fois-là, on a renversé. Et à la fin de la journée, on retourne puis on mange ensemble du barbecue. Et on est assis là. Et puis avant de partir, il dit hey, pendant que vous mangez, on va vous montrer une vidéo de la journée. La vidéo de la journée. Je veux que vous compreniez que dans ma trentaine, il y a des photos qui le prouvent, à 35 ans, moi, je pesais 35, des fois, certaines semaines, 40 livres de plus qu'en ce moment. 15-18 kilos. Et ce jour-là, on est en train de manger notre barbecue après la journée. Puis là, il a dit, on va vous montrer une vidéo. Je dis, ah, une vidéo? Je ne savais pas qu'il y a une vidéo. Il y avait des caméras partout sur le parcours, puis ils te filment. Alors, pendant qu'on est en train de manger notre barbecue, la sauce, les frites, je suis en train de regarder la vidéo, et tout à coup, les autres n'ont pas réagi. Quand vous regardez une vidéo avec 30 personnes, c'est qui que vous regardez? C'est vous. Bon, c'est toi. Regardant une vidéo, d'un coup, je me vois sortir de l'eau par la chute, là, ben, ouais. Puis d'un coup, je me vois essayer de sortir de l'eau. Sur un rocher glissant, c'était pas élégant. Et ça, une espèce de... Puis là, j'ai regardé ça et j'ai haï cette image. J'ai haï cette image avant d'aimer mieux manger et faire de l'exercice. Est-ce que vous me suivez? J'ai haï... Et la transformation prend place lorsque j'haïs tellement ce que l'adultère a fait dans ma vie ou celle de d'autres que je vais être droit devant Dieu. J'haïs de voir des hommes de Dieu qui chutent et qui sont en occasion de honte. Alors, Seigneur, je veux aimer tes commandements. J'haïs le mensonge. J'ai vu ce que ça a fait à ma famille de génération en génération. J'haïs la violence. J'haïs la colère. J'haïs l'Église égoïste, centrée sur elle-même, avec un monde qui crève autour d'elle. J'haïs ce que Dieu haït afin de pouvoir aimer ses commandements et de changer profondément avec un cœur sans compromis. Quelqu'un devrait applaudir, c'est important. J'incline mon cœur à pratiquer tes commandements. Je hais les hommes de compromis et j'aime tes commandements. Le changement prend place lorsque j'incline mon cœur à pratiquer ses commandements en confrontant mes haines et mes amours et en les conformant avec ses commandements, avec sa parole. Est-ce que vous savez qu'il y a des j'aime qui sont toxiques? Les j'aime qui sont toxiques. J'aime. J'aime me plaindre. J'aime blâmer d'autres. J'aime parler et babasser sur les fautes, les erreurs, les chutes des autres. Ça m'élève. J'aime, je ne parle pas de moi, là, je parle en général. J'aime me déresponsabiliser avec mon passé. Si tu savais d'où je viens, je ne pourrais jamais changer. J'aime remettre à plus tard. J'aime m'étourdir, j'aime m'engourdir, j'aime certaines relations et entourages qui me tirent vers le bas, je le sais, tout le monde le sait, mais j'aime ça. J'aime justifier mes comportements, mes compromis envers Dieu par ma supposée ouverture et non-jugement. Mais le psaume continue, le psaume 119 que je vous ai lu, le verset suivant. « J'éloignerai de moi les méchants et la méchanceté parce que je veux marcher selon les commandements de mon Dieu. C'est ta promesse qui va me redonner la vie et l'espoir en toi ne me conduira jamais à la confusion. Je m'occuperai sans cesse de tes commandements et tu seras mon appui pour que je sois sauvé. » Le cœur sans compromis commence avec une réalisation, avec le courage de s'arrêter, de nommer, d'identifier des enjeux où j'aime des choses qui me font du mal, et je décide devant Dieu, Seigneur, apprends-moi à haïr ce que toi tu es. Apprends-moi à tellement réaliser l'impact, les ténèbres, et apprends-moi à ne pas fuir la lumière, à ne pas m'en cacher. Apprends-moi à haïr ce que tu es et à aimer ce que toi tu aimes, afin d'avoir un cœur sans compromis devant toi. C'est un appel, c'est une décision, c'est un refus qui est radical. Peut-être que je veux apprendre, je veux avoir une haine pour ce que toi, Seigneur, tu es. Seigneur, je sais que tu es, dans ta parole, tu es le mensonge, tu es l'impureté, tu es l'infidélité, tu es, Seigneur, l'adultère, tu es le blâme, tu es l'injustice, tu as une haine pour les secrets, tu as une haine pour l'hypocrisie, tu as une haine pour le double, l'agent double chrétien. Et Seigneur, je veux, non, sans condamnation pour d'autres, ni pour moi-même, mais je veux entrer dans une dimension où je hais ce que tu es afin d'aimer ce que tu aimes, et m'attacher à tes commandements et vivre une vie sans compromis. Quelqu'un devrait dire oui. Première dynamique, c'est mon refus radical, ce que je dois rejeter dans le même somme, le même texte et les mêmes deux versets. La deuxième dynamique, c'est non seulement mon refus radical, ce que je dois rejeter, c'est mon refuge. En qui, en quoi dois-je me réfugier? J'incline mon cœur à pratiquer tes commandements toujours, jusqu'à la fin. Je hais les hommes de compromis et j'aime tes commandements. Tu es mon refuge et mon bouclier. Une bonne question. La majorité des chrétiens savent que nous sommes dans un combat spirituel, qu'on est sous attaque. Mais la question, c'est, est-ce que tu sais, dans le combat spirituel, dans la guerre spirituelle, est-ce que tu sais où te cacher? Est-ce que tu sais où aller pour ton refuge? Ça fait partie du combat de savoir. Lorsque mon fils était tout jeune, j'avais plein d'activités à faire avec lui. Puis à un moment donné, lui, il m'a dit, « Papa, on va aller au Laser Quest. » On va aller à une place le samedi matin, je prêche le lendemain. On s'en va au Laser Quest avec une gang de petits de même âge que lui, de toute une gang de 7, 8, 9 ans, une gang qui sont surexcités, qui mangent de la barbe à papa, de la pizza et du sucre qui rebondissent ses murs. Et on est quelques papas perdus qui s'en vont là. Et on s'en va là. Et c'est le casse, les choses, l'espèce de mitraillette, et tu te tires au laser, etc. Puis à un moment donné, moi, j'embarque dans le jeu. Poudon, je suis bien gagné. Alors, je vais en tirer le plus possible. Cette gang de petits-là, il y a un élément de revanche thérapeutique là-dedans, mais Georges, tu m'expliqueras ça plus tard. Alors, mais je perdais tout le temps. Des petits pits de 7-8 ans me tiraient tout. Là, tu repartais. Je vidais mon. J'ai perdu, je me faisais tirer. Les jeunes de 8 ans se moquaient de moi. À un moment donné, il y en a un, moi, je vois passer mon fils, jamais assez fin pour me dire quoi faire ou comment m'en sortir, juste me tirer dans le dos, me tirer de tous les bords, lui et ses amis. Et à un moment donné, moi, Dieu me parle partout. Alors, j'étais là au Laser Quest, tout en sueur, personne d'autre aussi chaud que moi, et je me fais tirer de toutes les bords. J'ai le pire, tu as ton nom, puis tu as le score à côté, j'ai le pire score de tout, pour le monde entier à voir. À un moment donné, il y a un des amis de mon fils, pas mon fils, il y a un des amis de mon fils qui me dit, écoutez, M. Hood, comprenez, vous n'avez pas l'air de comprendre, là. Ça s'appelait exactement comme ça. Il y a des refuges. Il y a des places où tu vas te cacher. Quand tu planifies ton chemin, il faut que tu planifies tes refuges. Il y a des refuges, puis il me dit, hey, ce petit gars-là, c'est pas un prédicateur, là, mais il m'a prêché ce matin-là. C'est Pasteur Roud. Il y a des refuges, puis c'est dans le refuge que tu trouves les boucliers. Il y a des boucliers? Oui, il y a des boucliers. C'est dans le refuge que tu trouves les boucliers. C'est pas seulement mon refus radical, je vais haïr ce que Dieu est afin d'aimer ce qu'il aime. C'est aussi, je dois apprendre à trouver mon refuge, à me cacher à l'endroit où je vais être vraiment protégé et où je vais vraiment avoir le bouclier de sa protection. Quelqu'un devrait dire oui et amen. Refuge, je dois pratiquer ces commandements. Tu es mon refuge, tu es mon bouclier. Est-ce que je suis attaqué par la déception, par les déchirements, par le désespoir, les doutes, les douleurs? Lorsque tout ça fait décliner mon cœur, j'ai besoin de trouver le refuge. Je n'ai pas grandi et combattu en Dieu. Et vous n'avez pas grandi et combattu en Dieu. Je n'aurai pas des victoires en 2019 parce qu'il n'y aura pas d'attaque ou de combat. Je vais avoir des victoires en 2019 parce que je vais trouver mon refuge en lui. Je vais savoir où me cacher. Mon refuge, le courage d'identifier, de nommer les enjeux du compromis, les faux refuges. Il y a des faux refuges dans lesquels nous allons nous réfugier. On va se cacher et qui, loin de nous protéger, c'est comme si tu courais vers ton ennemi pour qu'il t'abatte. Tout le monde ici, nous avons développé des mécanismes de faux refuge. Le blâme est un faux refuge. Je me réfugie dans le blâme. Je ne changerai jamais. Je me réfugie dans l'apitoiement. Je ne changerai pas. Dans l'abaissement de moi-même. Je ne suis pas bon à rien, je ne m'en sortirai pas. Je me réfugie dans la consommation, l'engourdi, m'étourdi. Je me réfugie dans les choses matérielles. J'achète. Pendant un instant, je me réfugie là-dedans. Mais c'est tellement vide. Je me réfugie dans l'étourdissement. Je me réfugie dans le passé, mes exploits passés. Ouais, mais dans le temps, moi, j'étais... Ou mes erreurs passées, je ne pourrais pas changer aujourd'hui, c'est trop tard. Je me réfugie dans les standards impossibles, inatteignables pour les personnes avec qui je vis. Je mets des standards sur les gens autour de moi qui sont inatteignables. Je me réfugie là-dedans pour ne pas avoir à faire ma part. Je me réfugie dans les standards bas pour moi-même. Toujours bas, parce que j'ai peur de l'échec. Je me réfugie dans les faux apaisements. Je me réfugie dans la comparaison. Celui ou celle qui va marcher avec une vie, avec un cœur sans compromis, marche à chaque jour en disant, « Seigneur, je dois trouver et marcher dans le bon refuge. Je veux me réfugier en toi. Je veux me réfugier dans ta maison. En 2019, je vais être là, semaine après semaine, verglas, pas verglas. Je vais être là. Je veux me réfugier dans des amitiés avec des gens qui veulent mon bien et que le fait d'être avec eux m'approche de Dieu. Je veux me réfugier. Je veux me réfugier, Seigneur, dans la vérité. Je veux me réfugier dans tes promesses. Je veux me réfugier dans ce que tu as fait hier dans ma vie. Je veux me réfugier dans la louange. Je veux me réfugier, Seigneur, dans un cœur pour toi. Je veux me réfugier dans le regard sur l'avenir où je sais que je vais avoir à répondre pour ma vie devant toi. Et je veux me réfugier dans l'espoir que tu me donnes. Il n'y a rien d'autre ni personne. Je vais trouver mon refuge et mon espoir en toi et en toi seul, dans le nom de Jésus. C'est la dernière portion. La dernière portion, je termine avec ça. C'est la dernière portion. Elle dit littéralement, voici comment tu vas avoir un cœur sans compromis. Un refus radical, ce que je dois rejeter. Je vais haïr ce que Dieu est afin d'aimer ce qu'il aime. Mon refuge, voici ce en où je dois me réfugier. Je refuse d'aller vers les faux refuges qui me jettent dans la gueule de mon ennemi. Et c'est la troisième dynamique, c'est mon retour. Ce que je dois renouveler. Non seulement ce qu'il dit, j'incline mon cœur à pratiquer tes commandements maintenant jusqu'à la fin. Je hais les hommes de compromis. J'aime tes commandements. Tu es mon refuge, mon bouclier, les derniers mots. Et c'est en tes promesses que je mettrai mon espoir. Et le psaume 119, le verset 17 que j'ai lu tantôt, c'est ta promesse qui va me redonner la vie et mon espoir en toi ne me conduira jamais à la confusion. En d'autres mots, combien savent ici ce matin, je ne serai jamais déçu de mettre mon espoir en toi. Une grande différence, c'est l'émission, on s'approche, j'arrive à la fin, il y a une grande différence en connaître l'espoir qui est en Dieu. Vous remarquez qu'il n'a pas dit, après 35 ans de pastorat, moi je vois cette différence-là chaque jour. Il y a une immense différence entre j'ai un espoir en Dieu et j'espère moi-même en Dieu. Entre je connais l'espoir de tes promesses. Ça, c'est très passif. Il y a des chrétiens qui connaissent les promesses, l'espoir des promesses. On entend parler chaque semaine depuis des années. Mais des moments dans nos vies, au-delà de les connaître, est-ce que je vais mettre mon espoir? Un est quelque chose que je sais, l'autre est quelque chose que je fais. Est-ce que je vais mettre mon espoir en Dieu dans cette situation-là, désespérée? Une grande différence. Le cœur sans compromis, c'est un cœur qui comprend la différence. Il y a une différence entre entendre l'espoir et je m'engage envers cet espoir. Connaître l'espoir et faire confiance à Dieu et donner une chance à l'espoir de changer la situation. Une grosse différence entre acquiescer à l'espoir, c'est donc rester un bon message le matin. Puis m'approprier l'espoir, je vais agir sur cet espoir. Il y a une grande différence entre offrir l'espoir à d'autres et lui ouvrir vraiment ma vie, mon cœur. Il y a une différence entre connaître la définition de l'espoir et prendre des décisions qui vont vers l'espoir que Dieu me donne. Il y a une différence ultime entre je reçois l'espoir, j'en entends parler, mais ultimement, je le refuse. Et littéralement de dire, je prends le risque de l'espoir, je prends le risque de la foi, je prends le risque de la vie sans condamnation et du pardon, je prends le risque de la vie du cœur entier, sans compromis, et voici ce que je vais renouveler dans mon cœur. Jérémie l'a dit de cette façon, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je ne fais que penser à ma détresse, à ma misère, c'est comme un absinthe, c'est amer, c'est du poison dans mon âme. C'est juste ça que mon âme se souvient. Elle est abattue au-dedans de moi. Si je pense seulement à l'échec, à la déception, à la blessure, à ma peur de l'avenir. Mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Je vais mettre mon espoir en lui. Je vais mettre ma confiance en lui. Je vais agir. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent à chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, mon Dieu! L'Éternel est mon partage. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Le cœur sans compromis, il y a une ligne ce matin, il y a une décision. Je plaide avec toi ce matin, il y a une décision, il y a une ligne. Où je dis, Seigneur, je ne veux pas juste vivre une vie sans condamnation. Pour moi-même ou pour d'autres, je veux vivre une vie sans compromis. Je traverse cette ligne ce matin, puis je te demande de m'aider à haïr ce que toi tu es. À aimer ce que toi tu aimes. À aimer pratiquer tes commandements. Je vais trouver mon refuge, non pas dans tous les faux refuges qui sont tellement mensongers, tellement trompeurs, tellement futiles. Non, mon Dieu, je vais mettre mon refuge en toi. Et voici maintenant, mon espoir va être en toi. Non seulement le connaître, cet espoir-là, mais mon cœur s'en va, je vais agir vers ton espoir. Je reçois des lettres et je reçois un courriel ce matin. Et le monsieur a dit, vous pouvez vous en servir, je pense qu'il va être ici ce matin, à moins que la température l'ait empêché. C'est tout simple, c'est tellement magnifique. Je veux juste terminer parce que ce monsieur-là, c'est un cœur qui veut aller vers Dieu. J'ai remarqué à la fin du vidéo, la jeune fille qui parlait, suivre Jésus. Je voulais commencer le message avec elle parce que c'est très honnête ce qu'elle a dit. Je veux aller pour Dieu, je veux marcher pour Dieu, mais ce n'est pas facile. Des fois, je recule, mais je veux prendre les bonnes décisions, je veux avancer. Chacun d'entre nous. C'est notre cœur ce matin. Ce monsieur-là m'écrit et dit, « Cher Pasteur Claude, je t'écris pour te remercier d'avoir le courage de nous prêcher la vérité. J'ai accepté le Seigneur il y a plusieurs années à travers le témoignage d'un ami et collègue de travail. Il voyait Dieu comme un chemin vers le succès. J'ai embarqué là-dedans et ma femme m'a suivi. Elle vivait des choses profondes avec le Seigneur. Et même si je la voyais guérir et rayonner, moi je restais en surface. » J'aimais trop mes affaires. J'avais des secrets, des ondes sombres que je ne voulais juste pas lâcher. Nous avons quitté l'église où nous étions suite à une série de divisions, puis aussi des leaders qui nous ont tellement déçus. Mon épouse a commencé à vous écouter en ligne, et moi aussi. On vivait des moments puissants avec Dieu dans notre salon en écoutant les messages. Même si on habite à une heure de Longueuil, on a commencé à venir à chaque dimanche. Couche par couche, le Seigneur me change profondément, puis il me libère. Parce que l'autre, tes messages sur la repentance, le pardon, et oui, sur être droit devant Dieu, que je n'avais jamais entendu pendant toutes mes années, la série « Suivre Jésus » me va droit au cœur. Je change tellement d'affaires depuis le début de l'année. J'ai demandé pardon à mes enfants et à ma femme pour mes excès d'alcool, mes colères, mes frustrations que je déversait sur eux autres. Mercredi soir, il y a 3 jours. Mercredi soir, j'ai été au rassemblement pour les hommes et j'ai abattu un autre ennemi qui empoisonnait ma vie. À la fin, j'ai fait un engagement avec un ami de l'Église. On va se texter à chaque semaine, puis on va déjeuner ensemble une fois par mois. On va être des hommes de Dieu. J'ai dit à ma femme, sans ces messages, sans nouvelle vie, on serait peut-être même plus ensemble. Mais je sais que je vais être un homme de Dieu. Je veux suivre Jésus pour le vrai. Alors moi, je m'agenouille à côté de lui ce matin. Puis je dis, moi aussi, je veux suivre Jésus pour le vrai. Seigneur, nous sommes en ta présence. Vous vivez avec moi dans la présence de Dieu. Seigneur Jésus, je me tiens devant toi ce matin. Et nous voulons te suivre sans condamnation. Mais nous voulons te suivre dans le flot de « Je ne te condamne pas. » Seigneur, je veux recevoir ton pardon, mais je veux l'accorder à celui ou celle qui m'a le plus blessé.
Et Seigneur Dieu, ce matin, je veux vivre sans compromis. Je veux vivre avec ta voix chaque jour qui dit « Va et ne pêche plus ». Tu ne me condamnes pas, mais tu m'appelles à porter ce fruit-là. La sanctification a changé. Et je veux avoir un cœur tout entier, complètement dévoué à toi. Alors ce matin, Seigneur, apprends-moi. Et je prends cette décision de te demander sincèrement de m'aider à voir, à discerner et à en venir à haïr ce que toi tu haïs. Pas des personnes, des choses, des forces destructrices dans ma vie. Et Seigneur Dieu, à aimer non seulement entendre tes commandements, mais aimer pratiquer tes commandements. Je ne veux plus fuir la lumière. Je ne veux pas en avoir peur. Je ne veux pas m'en la haïr la lumière parce que je veux m'accrocher à mes œuvres mauvaises. Non, mon Dieu, je veux courir vers la lumière. Je veux te laisser faire ton œuvre en moi. Agis en moi. Viens purifier mon cœur. Viens le nettoyer. Viens, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Seigneur, mon Dieu, je sors ce matin solennel devant toi, devant qui nous répondrons pour nos vies. Je déclare ce matin, Seigneur, apprends-moi à reconnaître les faux refuges. Je suis allé me cacher dans plein de choses, cacher dans le blâme, cacher dans le compromis, cacher dans la justification, cacher dans toutes sortes d'autres choses, cacher dans la culpabilité, mais aussi cacher dans les accusations sans fin, dans l'orgueil, dans l'endurcissement. Non, ce matin, Seigneur, je veux trouver mon refuge en toi et en toi seul. Et Seigneur, je ne serai pas de ceux qui entendent ton espoir sans s'y engager ce matin. Je veux m'engager envers l'espoir, prendre le risque de l'espoir en toi. Je déclare ce matin que l'espoir ne me décevra jamais. L'espoir en les gens m'ont parfois déçu. L'espoir en moi-même, en l'humain, en toutes sortes d'autres choses. Mais Seigneur, lorsque je mets mon espérance en toi et que j'espère activement en toi et que j'applique cet espoir à ma vie, je ne serai jamais confus. Je ne serai jamais déçu. Nous voulons te suivre, Seigneur Jésus, et je prie pour des décisions d'éternité. Je prie pour des décisions qui vont changer des familles, des couples, des vies, qui vont faire que des hommes vont laisser leur dépendance, que des femmes vont laisser hommes et femmes ce qui les dominait, et que ce matin, un flot de repentance, de conviction, de liberté, et que nous allons devenir par la suite, nous allons par ce fait devenir de plus en plus ces hommes et ces femmes qui appellent à l'existence ce qui n'existait pas, qui appellent à la vie ce qui était mort. Je déclare 2019 une année de résurrection, une année de création de choses nouvelles, miraculeuses en Dieu. Et Satan, tu ne pourras pas l'empêcher. Le menteur ne pourra pas l'empêcher. Donne-moi un cœur tout entier, Seigneur, et complètement dévoué. Fais ce que tu veux de ma vie. Nous le prions dans le nom de Jésus. Toute l'Église Nouvelle Vie dit Amen ce matin. Voulez-vous applaudir de tout cœur? Voulez-vous ovationner?